Radio Okapi.
Belinda Busuma Mwamba pour le journal.
Le verdict est tombé hier dans l'affaire Batoumike et consorts. Ce député provincial du Sud Kivu, poursuivi notamment pour viol, écope de la prison à perpétuité. Soulagement pour la population locale. Un danger de mort guette 400 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï, alerte l'UNICEF. Situation consécutive aux violences dues au phénomène Kamuina-Nsapu. Et puis, la fraude minière poursuit son chemin dans le Nord Kivu. À Goma, 6 jeeps de particuliers et ONG saisis ont été présentés hier aux médias. Ces véhicules ont été interceptés ces 5 derniers jours dans le Massissi et à la Grande Barrière à Goma. Dossier à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ouf de soulagement pour les populations de Kavumu au Sud Kivu dans l'affaire Frédéric Batoumike. Le jugement rendu hier par la Cour militaire du Sud Kivu suscite l'espoir au sein de la population de cette partie du territoire de Kabare. Elle déclare que la justice a très bien fait son travail en condamnant ce député avec ses miliciens à la prison à perpétuité. Par contre, les proches des personnes condamnées encouragent ces dernières à interjeter appel car la Cour militaire du Sud Kivu n'a pas bien dit le droit. Selon eux, le député Batoumike et consorts étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité par viol et meurtre, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes ou des munitions. Jean Kassami nous en dit plus.
Sur le total de 18 inculpés, le député provincial Frédéric Batoumike avec du membre de sa milice Jeshi Layesu ont écopé la peine à perpétuité. La plupart des habitants de Kavumu victimes des exactions commises par cette bande voient venir un lendemain meilleur.
Nous espérons avec ce qui est fait que la paix pourra revenir. Ceux-là qui devraient être condamnés, ils ont été selon les griefs qui étaient à leur charge. Et ceux-là qui ont été acquittés, la justice a trouvé légal de les acquitter selon les jugements.
Le président de la cour qui a prononcé la sentence accorde aux condamnés les droits d'interjeter appel dans les délais qui leur est reconnu par la loi. Un extrait du jugement rendu par le lieutenant-colonel magistrat Kisele Mouké.
Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, les condamnent à la peine unique la plus forte, soit à la peine de servitude pénale à perpétuité, Batoumike Rukibanya, Magadju, Mushagalusha, Bufole, Polepole, Zirimingi, Shamboko, Shamavu, Tindula, Moussa, Soumaïl Zaïroua.
La cour a révélé que la milice de Frédéric Batoumike s'approvisionnait en armes et munitions au Burundi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Restant dans le domaine judiciaire, au Nord Kivu, le ministère public a requis mardi des peines allant de 4 ans de prison ferme à la peine capitale contre 3 Mwami du territoire de Beni. Il s'agit d'un de la chefferie de Watalinga et deux des localités de Baungashu Luna et Mapakombe Bakongo. Sachez que la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu siège en audience foraine publique à Beni dans le cadre d'un procès contre des présumés rebelles de l'ADF et leurs collaborateurs. C'est Sekombi Katondolo.
Le ministère public a commencé son réquisitoire par un exposé de faits lors du massacre de Mayangose, Kididiwe, Kadou, Toubameme, Ngadi et Vemba, suivi des éléments soulignés dans le rapport du groupe d'études sur le Congo, des experts des Nations Unies et enfin de la société civile, tout en établissant un lien entre le jour de massacre et le déploiement des FARDC dans la zone. L'organe de la loi a conclu en disant qu'il a désormais posé un visage, un nom sur le massacreur ainsi que le mobile des commanditeurs de ce massacre en se fondant sur la théorie du triangle à trois sommets avec le Mwami Sambili Bamukoka, Borosobin Baraka et Kitobi Bonguma. C'est ainsi que pour le premier, il a requis 4 ans de prison ferme et pour le deux derniers, la peine de mort. Rappelons qu'ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, crimes contre l'humanité par meurtre, violation des consignes, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Signalons que la Cour prendra la cause en délibéré après les audiences des répliques et contre-répliques avant qu'elle ne rende ses arrêts. Beni, c'est Sekombi Katondolo, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, plus de 2 millions d'enfants congolais de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère en 2018 et 400 000 d'entre eux pourront en mourir dans la région du Kasaï au cas où il n'y a pas d'assistance humanitaire. Ce cri d'alerte de l'UNICEF est contenu dans un communiqué de presse publié mardi. Blaise Ndongala.
Selon les communiqués de cette agence du système de l'ONU, ils sont environ 400 000 ces enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï. Ces enfants, alertent l'UNICEF, pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés par des interventions sanitaires et nutritionnelles. Cette situation est due aux violences qui ont occasionné les déplacements massifs et la réduction de la production agricole au cours des 18 derniers mois dans la région. L'UNICEF précise également que les violences et les déplacements des personnes ont entraîné des pénuries alimentaires, les deux tiers des ménages étant incapables de travailler leurs terres pour cultiver. L'insécurité alimentaire sévère affecte maintenant des grandes parties de la région et les conditions ne devraient pas s'améliorer avant juin 2018 car la saison des plantations 2017 ont été perdues. Les familles n'ont pas pu récolter des produits sur leurs terres et ils n'ont rien à vendre sur les marchés, rappelle cette agence de l'ONU. Depuis janvier 2017, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni des soins nutritionnels thérapeutiques à 50 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï. Cependant, il affirme n'avoir reçu que 15% du financement nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants en 2017. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Pendant ce temps, des structures de protection d'enfants ont pris part ce mercredi à Kananga à un atelier de formation sur l'éducation au risque des mines et restes explosifs à l'initiative de l'ONG Mouvement pour le Développement Intégral, MDI. Cette activité organisée avec l'appui de l'UNICEF a pour but d'amener ces organisations à protéger les enfants de la région du Kasaï, région qui regorge encore des engins non explosés dans certains endroits. La coordinatrice de l'ONG Mouvement pour le Développement Intégral explique. Rose Meta Okito au micro de François Kadima.
On doit d'abord identifier l'engin, parce que si on ne l'identifie pas, on ne pourra pas vraiment se protéger. Et l'enfant est trop curieux. La curiosité de l'enfant fait à ce qu'il puisse ramasser n'importe quoi qui se passe, qui brille dans ses yeux. Alors, on fait identifier aux parents les engins qui peuvent exploser. Quand ils les connaissent, alors ils ont le message qu'ils vont aller dire aux enfants de ne pas toucher, de ne pas jouer avec, de ne pas s'approcher avec pour éviter les accidents. Nous avons noté qu'il y a des engins, par exemple, ce que nous appelons les restes explosifs de guerre, qui ont été largués pour exploser mais qui n'ont pas explosé. À Matamba, dans le territoire de Kazumba, il y a un engin, une fille qui ramassait les avocats et a cogné sur cet engin qui a explosé et elle a été mutilée. Ce qui prouve que c'est un indice, c'est une évidence qui prouve qu'il y a des engins et que d'autres enfants qui ne sont pas sensibilisés, qui ne sont pas informés, peuvent aller toucher.
En dépit de l'alerte de l'UNICEF sur la malnutrition sévère et la mort qui peut s'en suivre, notez cette bonne nouvelle pour les habitants du Grand Kasaï. Le Programme Alimentaire Mondial PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO affirment avoir reçu un montant de 10 millions de dollars américains du gouvernement belge pour appuyer leurs interventions dans le Grand Kasaï. Objectif, améliorer les conditions de vie et de sécurité alimentaire ainsi que nutritionnelle de près de 18 000 ménages dans la région après la crise liée au phénomène Kamuina Nsapu qui a secoué la région. Jean-Pierre Elali nous dit comment cet argent sera utilisé.
Grâce à cet appui financier, le PAM procédera à la distribution d'une ration de farine de maïs fortifié, des légumineuses, d'huiles végétales et des sels iodés à 31 000 personnes. À partir de janvier 2018, il utilisera les cash à l'attention de 50 000 personnes. De son côté, la FAO fournira à 6 700 ménages des déplacés retournés assistés par le PAM, des kits maraîchers composés d'une houe, d'un râteau, d'une bêche, d'un arrosoir et des 40 grammes de semences de légumes, ce qui permettrait à chaque famille de produire environ 80 kg de nourriture. Ces actions combinées résulteront d'une approche intégrée mise en œuvre par les deux agences onusiennes. Dans 3 à 4 mois, cette combinaison de l'aide alimentaire et agricole permettrait à ces 18 000 familles à la fois un accès durable à l'alimentation et la possibilité de dégager de revenus. Pour rappel, la crise dans la région du Kasaï date d'août 2016. Elle a entraîné une crise humanitaire profonde et des violations massives des droits de l'homme, avec à la clé plus d'un million de déplacés et un peu plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.
Rendons-nous au Palais du Peuple à présent. Nous sommes ici à Kinshasa. Examen du projet de loi électorale par le Sénat. La commission politique, administrative et juridique s'est dit bloquée sur trois points majeurs dont le seuil, la caution et la machine à voter. Elle sollicite donc qu'une option soit levée par la plénière, ce qui pousse le président Léon Kengoua Dondo à proposer au cours de la plénière de ce jeudi que les articles concernés soient réécrits pour trouver un consensus politique sur ces dispositions. Explication, Michel Kifindangoy.
À en croire Léon Kengoua Dondo, la fixation du seuil est une réforme importante, mais devrait obtenir un consensus politique avant son adoption. Il propose donc que la disposition du seuil soit renvoyée au processus électoral prochain, ou alors que le seuil soit ramené à un pourcentage raisonnable, mais au niveau de la circonscription. À propos de la caution, le président du Sénat propose qu'elle soit progressive. La commission PAJ réécrit donc ses dispositions en tenant compte de l'une des orientations données par Léon Kengoua Dondo et adoptées par la plénière. Dès que la commission sera prête avec son rapport, il sera adopté aujourd'hui même au cours de la plénière en cours. Il ne restera donc que les sénateurs examinent et votent ce projet de loi article par article avant de l'envoyer en tout cas d'ici vendredi dans une commission mixte paritaire, Assemblée nationale et Sénat, afin d'harmoniser les vues. Des Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Et justement, ce projet de loi électorale en examen au Sénat est soutenu par la plateforme dénommée Soutien à Étienne Tshisekedi 7 en sigle. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa, Roger Lumbala, son président, confirme que l'actuelle loi est bonne et cela pour éviter la prolifération des partis politiques et la délimitation des candidats aux différents scrutins. Par la même occasion, le président du 7 a annoncé la suspension de sa plateforme aux réunions du rassemblement El Kassavubu. Roger Lumbala, président du CET, au micro de Richard Kamonga.
Je trouve que la loi électorale, elle est correcte et elle va assainir l'environnement politique de notre pays par le fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte 700 partis politiques. Et sur la table du ministre de l'Intérieur, il y a 285 partis politiques qui attendent leur agrément. Donc si nous laissons cette situation comme ça, nous allons nous retrouver avec 1000 partis en République démocratique du Congo. Je pense que aujourd'hui, avec le seuil qui est donné de 1%, c'est une référence valable. Qu'est-ce que c'est le seuil? Le seuil, c'est le nombre de votants multiplié par 1 sur 100. Est-ce que c'est normal que pour 500 sièges que nous puissions avoir 19 000 candidats? C'est ça ce que nous avons vécu en 2011. Cette fois-ci, nous aurons 40 000 candidats pour les 500 sièges. Ce n'est pas normal. C'est cet aspect-là qui pousse Roger Lumbala aujourd'hui à accepter ces conditions.
Par ailleurs, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dans le Grand Katanga dit accepter le calendrier électoral tel que proposé par la CENI. Cependant, le coordonnateur de cette plateforme politique demande à la communauté internationale de surveiller les opérations électorales en RDC. Kungwa Kumwanza indique que la priorité pour l'opposition, ce sont les élections. Il a dit hier, au cours d'une conférence de presse organisée à son domicile à Lubumbashi, Gabriel Kungwa Kumwanza au micro de Colin Juma Moussampo.
Pour ce qui est des calendriers, le RASOB a constaté que la communauté internationale a accepté cette date du 23 décembre et nous, notre problème ne se pose plus parce qu'à partir du moment où il y a au moins une date, parce que nous savons que nos amis ont donné cette date à contre-cœur, nous avons pris acte. Nous ne pouvons pas continuer à nous bagarrer sur la date, étant donné que la date est là. D'ailleurs, la CENCO a même dit une date acceptable. Nous aurions voulu que ça soit avant le 23 décembre. Mais bon, il y a ce 23 décembre qui nous colle. Nous avons, nous, RASOB Katanga, pris acte. Mais à condition que les opérations électorales soient surveillées par la communauté internationale. Transition sans Kabila, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est élection sans Kabila. Oui, il y a une nuance. Kabila ne peut plus briguer un troisième mandat.
Cap sur la province du Tanganyika. Troisième jour de grogne à la division provinciale de la santé à Kalemi. Les agents empêchent le chef de division à accéder à son bureau. Sur place, la tension est vive. Les autorités provinciales appellent les agents au calme. Le procureur s'est saisi du dossier, nous dit François-Xavier Mibé. Voilà, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. On va à présent passer à l'actualité en dehors de nos frontières.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes d'abord en Somalie. Au moins 13 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré ce matin dans une école de police à Mogadiscio, a annoncé un commandant des forces de l'ordre. L'attentat suicide contre la plus importante école de police de la Somalie, revendiquée par les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, a tué 13 policiers alors que 15 autres ont été blessés, a déclaré à l'AFP le commandant Ibrahim Mohamed. Les puissances alliées du Tchad, comme la France ou les États-Unis, qui s'appuient sur le pays pour lutter contre le djihadisme en Afrique, risquent d'encourager l'instabilité politique et la violence en soutenant le régime tchadien, estime un rapport d'un centre de recherche américain publié ce jeudi et transmis hier soir à l'AFP. D'après ce document, grâce à la capacité militaire du Tchad, la France et les États-Unis considèrent Idriss Déby, président tchadien, comme un allié crucial. Mais ils risquent d'encourager l'instabilité politique et la violence puisqu'ils veulent pourtant freiner. En Russie, signalons le retour ce jeudi sur Terre des astronautes de la Station spatiale internationale, parmi eux un Russe, un Américain et un Italien. Ces astronautes sont revenus à bord d'un vaisseau Soyouz après avoir passé plus de 4 mois en orbite à bord de la Station spatiale internationale. Et puis, la Banque centrale européenne doit publier ce jeudi des nouvelles prévisions traduisant son optimisme sur la croissance en zone euro, mais devrait, contrairement à la Fed américaine, s'égarder de tout signal en vue d'un nouveau resserrement monétaire.